Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Au Sisiba, la semaine de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Nous sommes aujourd'hui en 2017, il y a plusieurs dizaines d'années déjà, en 1948, l'Organisation des Nations Unies, toute jeune, elle venait à peine de naître, a eu le mérite et le courage de voter, d'adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était un moment tout à fait colossal, on sortait de la guerre où bien sûr les droits de l'homme avaient été bafoués, piétinés, violés en particulier par l'Allemagne nazie, mais on était encore en situation coloniale, puisque parmi les vainqueurs figuraient la France, l'Angleterre, puissance coloniale. Parmi les vainqueurs figuraient aussi les États-Unis, où, comme devait le rappeler Du Bois quelques années après, les droits des Africains étaient totalement méconnus. Les choses ont bien avancé depuis, puisque l'Afrique est devenue indépendante, la problématique des droits de l'homme est reconnue comme un impératif un peu partout dans le monde, et pourtant, l'Organisation des Nations Unies a cru bon d'adopter, sans aucune opposition, une décennie mondiale des peuples d'ascendance africaine. Nous sommes à Libreville où le CICIBA, le Centre International des Civilisations Bantoues, vient d'organiser la semaine de la décennie internationale des peuples afro-descendants. Je suis avec Madame Marie-Evelyne Pétain Barry, qui est la coordinatrice du système des Nations Unies au Gabon, avec siège à Libreville, et qui est en même temps la représentante du PNUD. Madame, vous êtes donc au cœur de l'institution des Nations Unies. Alors, cette question, pourquoi la décennie des Afro-descendants, alors que la question des droits de l'homme semblait avoir été bien posée, sinon résolue depuis 1948.
Merci beaucoup. Bien écoutez, oui, la Déclaration des droits de l'homme, comme vous l'avez dit, depuis 1948, a été adoptée. Mais quand elle a été adoptée, grand nombre de pays africains, d'ailleurs aucun pays africain, en dehors de l'Afrique du Sud, qui pratiquait alors l'apartheid, n'était indépendant. Je pense que la Déclaration des droits de l'homme a contribué aux indépendances, mais maintenant, les indépendances n'ont pas géré certaines situations. Ce qui fait que la Déclaration des droits de l'homme a également généré d'autres conventions internationales engageant la responsabilité des États par rapport aux droits de l'homme. Notamment, la Convention du droit des enfants, la Convention relative à la discrimination contre les femmes, pour éradiquer cette discrimination. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est venue assez tard, qui date de 2006. Et en fait, à chaque fois qu'on se rend compte que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne suffit pas à gérer les droits spécifiques d'un groupe ou un autre, que ce soit les enfants, les femmes, les personnes vivant avec un handicap, les Nations Unies travaillent à développer des systèmes qui engage et responsabilise les États pour que les États prennent en compte les droits de ces personnes. Maintenant, il est clair qu'au moment de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pays dans lesquels vivent les Africains américains, aux États-Unis, les droits de l'homme n'étaient absolument pas appliqués, que ce soit les droits civiques et politiques ou les droits économiques et sociaux. Dans les pays où vivent également les afrodescendants en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien ou en Afrique, soit ces pays effectivement étaient déjà indépendants mais ne prenaient pas en compte les droits spécifiques des Africains américains. Je parle ici de l'Argentine, de l'Uruguay, du Brésil, où on ne reconnaissait même pas leur existence. Oui, il y a des gens qui sont venus d'Afrique, mais ce sont des vrais citoyens, des citoyens à part entière, et donc on n'a pas vraiment à s'occuper d'eux. Dans des pays comme la France, où on dit que au nom de la démocratie, on n'a pas à faire plus attention aux droits des personnes d'ascendance africaine, principalement venues de la Caraïbe et de la Guyane, puisqu'ils sont des citoyens à part entière. Mais toutes les études montrent qu'en fait, la couleur de leur peau les désavantage. Les désavantages au niveau de l'éducation, les désavantages au niveau de la santé, les désavantages au niveau de la participation politique, les désavantages à tous les niveaux de la société. Et au-delà de ces désavantages, il y a aussi tous ces mots déshumanisants qui ne sont pas encore reconnus comme des délits. Il n'y a pas de législation qui soit suffisamment appliquée ni suffisamment spécifique pour que ces Antillais et ces Guyanais et ces Réunionnais se plaignent en cas de discrimination raciale. Et il y a des brutalités policières et du profilage racial. C'est la même chose dans beaucoup de pays d'Europe. Surtout maintenant, avec la question des migrants, qui n'est qu'une résultante du racisme, de la discrimination et de l'intolérance qui est associée, et qui n'est qu'une résultante de tout ce qui s'est passé, la traite transatlantique, l'esclavage et tout l'imaginaire qu'on a de ce que sont les Africains, vu que leur couleur n'a pas changé ou peut changer quand ils se sont mélangés, cette stigmatisation reste la même. D'où la nécessité pour les Nations Unies, de regarder la question des droits spécifiques des personnes d'ascendance africaine différemment. Et ça a commencé avec la conférence de Durban en 2001 et son programme d'action qui a vraiment demandé aux États et aux Nations Unies qui organisaient la conférence, et il faut savoir que certains pays n'ont pas accepté de participer à cette conférence, dont les États-Unis. Donc cette conférence a demandé de s'attarder sur les droits spécifiques des personnes d'ascendance africaine. Et ce programme d'action qui a été revu a montré que rien ne s'était passé. En 1969, une convention contre le racisme et la discrimination raciale dans le cadre des droits de l'homme a été adoptée par les Nations Unies, ratifiée par pratiquement tous les États, mais aucun programme n'a réellement été mis en œuvre. Donc il fallait faire quelque chose, parce que si on ne porte pas d'attention aux droits de 300 millions de personnes de par le monde, en fait, on ne porte pas attention aux droits d'homme de l'humanité.
Madame Petrus-Barry, vous avez parlé donc cette géographie des afro-descendants. Il faut dire un mot quand même du côté du Moyen-Orient, de l'Asie, parce que là aussi, beaucoup de gens ne le savent pas, il y a des afro-descendants.
Oui, il y a environ 800 millions de Sidis qui sont partis des côtes du Kenya, du Mozambique, en tout cas des côtes pacifiques de l'Afrique, et qui ont été emmenés en esclavage en Inde, et qui se sont maintenant plus ou moins intégrés à la communauté indienne, c'est-à-dire qu'ils parlent l'hindi ou le ourdou, mais qu'en fait, ils ne sont pas vraiment intégrés au niveau des droits de l'homme. Ils sont les plus pauvres, les plus marginalisés et les moins instruits au niveau de l'éducation formelle. Il y a également des personnes d'afro-descendance en Irak, il y a des personnes d'ascendance africaine en Turquie, il y en a en Chine et il y en a également en Océanie.
La décennie mondiale des peuples afro-descendants est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. On voit donc que, en fait, ces peuples qu'on appelait noirs, mais il y avait la stigmatisation par la couleur, il vaut mieux les désigner par leur origine, ils sont afro-descendants. Donc c'est une communauté dispersée à travers le monde. Alors, la décennie comporte des injonctions aux États, des propositions aussi d'action à mener. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes donc, ça a commencé en 2015, nous sommes en cours, hein, nous sommes au début de la décennie, est-ce qu'on voit déjà un certain nombre de résultats ?
Écoutez, la décennie a trois axes. Le premier axe, c'est la reconnaissance. Il faut que les États et les populations, les communautés reconnaissent que cette traite est un crime contre l'humanité, reconnaissent que les Africains venant, les personnes d'ascendance africaine n'ont pas eu de voix, n'ont pas pu faire de deuil, n'ont pas pu faire entendre leur histoire et que leur histoire n'est ni connue, ni enseignée, ni reconnue. Donc la reconnaissance, c'est le premier axe de la décennie. La justice, c'est le deuxième axe. Et c'est un axe très important parce que il n'y a pas de droit de l'homme sans justice. Et Je sais que la question des réparations est très controversée, mais si on veut vraiment gérer la question des droits des Africains-Américains, il va falloir en passer par là. Les réparations peuvent prendre plusieurs formes. Il y a des exemples aux États-Unis où certaines banques qui se sont enrichies par le biais de la traite transatlantique, aujourd'hui, remboursent en quelque sorte, en donnant des bourses à des Africains-Américains pour qu'ils puissent aller à l'université. Mais tout cela n'est pas suffisant. Il se trouve qu'à la fin de l'esclavage, dans de nombreux pays, les propriétaires d'esclaves ont été dédommagés, et on ne sait pas assez, ont reçu des dédommagements pour la perte de ces esclaves aux États-Unis, aux Antilles, en Haïti et dans bien d'autres pays. Les anciens esclaves n'ont été dédommagés de rien. Au contraire, ils ont continué à vivre dans la pauvreté. Pourtant, si on parle du commerce triangulaire, on parle bien de profit. Donc s'il y a eu profit par le biais du commerce, et également profit parce que les Africains qui ont travaillé comme esclaves n'ont jamais été rémunérés, et si aujourd'hui il se trouve que ces personnes d'ascendance africaine vivent ou qu'elles se trouvent dans des conditions plus difficiles où il y a beaucoup moins d'investissement public que dans les quartiers ou dans les régions ou dans les départements, pour parler d'outre-mer, et on vient de voir ce qui s'est passé en Guyane, et ces personnes donc vivent de manière avec des conditions beaucoup, beaucoup plus difficiles et beaucoup plus délicates dans tous les domaines que les personnes qui ne sont pas d'ascendance africaine. Voilà pourquoi les réparations sont importantes. Et voilà pourquoi les réparations financières sont importantes. Pas pour donner de l'argent aux personnes d'ascendance africaine, mais pour que cet argent puisse être investi dans leur éducation, puisse être investi dans leur accès à l'emploi, puisse être investi dans leurs droits à la terre. Il y a des pays où il y a des problèmes de droits à la terre, où ces gens ont vécu pendant 4 siècles. Le président Lula du Brésil avait édicté une loi par rapport aux personnes de palmarès pour dire qu'elles pouvaient maintenant demander des titres de propriété, et c'est en train de se faire. Donc cet argent peut également être investi, comme je le disais, dans les quartiers, dans les régions, pour développer les infrastructures et pour sortir les jeunes de la misère. Et donc, je pense qu'il ne s'agit pas de revendications révolutionnaires. Il s'agit juste de réparer. La justice répare, c'est son rôle. La justice rend justice, et pour rendre justice aux personnes d'ascendance africaine, il faut réparer. Et en réparant, on arrive au troisième thème de la décennie, qui est le développement. Dans de nombreux pays, les personnes d'ascendance africaine, comme je le disais, n'ont pas accès au développement. On a 17 objectifs du millénaire qui ont été adoptés par les pays membres des Nations Unies. Utilisons ces 17 objectifs, faisons-en des leviers. Il faut en faire des leviers pour permettre aux personnes d'ascendance africaine d'accéder à l'éducation. Et la Colombie, notamment, a un programme pour éradiquer la discrimination raciale et promouvoir l'éducation formelle des Afro-Colombiens. Le Brésil a également un programme de la sorte. Les Antilles n'ont pas de programme de la sorte parce que pour l'instant, nous ne sommes pas effectivement, je suis antillaise, j'ai oublié de le dire, nous ne sommes pas effectivement reconnus comme une communauté ou une minorité discriminée, stigmatisée, alors que nous le sommes.
Alors, Madame Pétrus-Barry, je voudrais que vous insistiez peut-être juste sur un point. Dans le programme, le plan d'action du CARICOM, il y a un passage sur la santé. Alors, beaucoup de gens disent que les pays tropicaux ont des maladies presque inévitables, alors que les études montrent que beaucoup de ces maladies sont directement liées à l'esclavage, au colonialisme.
Bien sûr, oui, le CARICOM a un volet santé. Et c'est une très bonne chose. Ils sont pas, enfin, oui, ces maladies sont liées. Bon, déjà, il y a des maladies avec lesquelles nous sommes venus, telles que la drépanocytose. Mais si l'argent avait été investi dans la recherche relative à la drépanocytose, je pense qu'on aurait déjà trouvé des solutions, peut-être pas d'éradication, mais au moins pour gérer cette question. D'autre part, à partir du moment où on vit dans des conditions plus difficiles que la moyenne de la population, on est plus facilement touché par les maladies qu'on appelle non-communicable diseases, telles que le diabète, telles que l'hypertension et les maladies de ce type. Donc je pense que vraiment il y a un lien évident entre l'esclavage et la pauvreté, un lien évident entre la pauvreté et les questions de santé. Et comme vous m'avez parlé du CARICOM, ça m'amène à parler du fait qu'il est important que les institutions régionales telles que le CARICOM, l'Organisation des États américains et l'Union africaine travaillent de concert par rapport aux droits des personnes d'ascendance africaine. Il y a une revendication qui n'est pas une revendication vindicative, mais qui, me semble-t-il, aiderait à promouvoir les droits des personnes d'ascendance africaine, c'est le fait que, effectivement, l'Union africaine a reconnu la diaspora comme une sixième région, mais je pense que ce n'est pas assez. Je pense que l'Union africaine devrait demander à ses 54 membres, à ses 54 pays membres, d'octroyer la nationalité du pays dans laquelle un afrodescendant demanderait la nationalité. Maintenant, la deuxième chose, il serait bien que l'Union africaine également fasse une résolution sur la reconnaissance, sur les réparations relatives aux afrodescendants. Parce que si l'Union africaine ne s'en mêle pas, on va penser que l'Afrique est indifférente. Et le débat qui consiste à dire ce discours, qui consiste à dire ce faux discours, que les Africains ont vendu leurs frères, peut se perpétrer. Je pense qu'il faut que notre histoire soit dite par nous, et qu'on arrête d'utiliser notre histoire à des fins politiques. Maintenant, par rapport à la décennie, je pense que la décennie, c'est une bonne chose, mais c'est un premier pas. C'est un premier pas vers une déclaration relative aux droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine. Et vu que les droits spécifiques des personnes d'ascendance africaine ne seront pas réglés d'ici la fin de la décennie, il faut essayer d'arriver à une convention qui va s'attaquer à ces droits. Mais le souci est encore. Les pays qui ont pratiqué l'esclavage n'étaient pas pour la décennie et ne seront certainement pas pour la déclaration et ne seront certainement pas pour la convention. Si on arrive, grâce à l'impulsion, il faut le dire, de l'Afrique du Sud qui a poussé pour cette décennie, si on arrive à obtenir une déclaration et si on arrive à obtenir une résolution des Nations Unies, il faut maintenant que les pays contributeurs contribuent. Parce que c'est le nerf de la guerre. Si on ne met pas d'argent dans ce dans quoi on s'est engagé, c'est lettre morte. Donc pour moi, c'est très important. Et ça peut faire partie des réparations. Il ne faut pas voir les réparations comme une revendication révolutionnaire. Il faut le voir comme quelque chose qui va permettre à ces communautés afrodescendantes d'arriver au même niveau de réalisation de leurs droits fondamentaux que d'autres.
Madame Petrus-Barry, nous arrivons à la fin de cet entretien. Le CICIBA à Libreville a organisé une semaine pour les afro-descendants. Le PNUD, dont vous êtes la représentante ici, a beaucoup fait pour que cette réunion ait lieu. Est-ce qu'il en sort, disons, un premier pas vers tout ce programme que vous évoquez ici?
Écoutez, je pense que c'est merveilleux, honnêtement. Pour la première fois en terre africaine, des afro-descendants, des Africains se sont retrouvés. Il y avait des artistes, il y avait des chercheurs, il y avait des écrivains des deux bords. Et le président Ali Bongo nous a reçus et nous a indiqué que les afro-descendants étaient chez eux. Et c'est un peu comme un retour, ce sont des retrouvailles qui vont nous permettre, pas de régler tous les problèmes, mais d'affirmer que nous sommes ensemble et qu'ensemble, on va pouvoir raconter l'histoire de ceux qui ont été volés à l'Afrique. Ceux qui sont restés vont pouvoir raconter comment ils ont pu survivre sans ces 20 millions de personnes qui sont parties. Et donc cette initiative du CICIBA, c'est vraiment le début, à mon avis, d'un retour à la prospérité globale de l'Afrique par le biais de recherches, par le biais d'échanges, par le biais de dialogues. Et c'est vrai, le CICIBA se limite aux cultures bantoues, mais c'est un forum d'échange. Et donc, moi, je souhaiterais qu'il y ait des échanges avec les afrodescendants d'Asie, avec les afrodescendants du Moyen-Orient, mais également avec les pays qui ont pratiqué l'esclavage, de façon à ce qu'ensemble, on arrive à trouver des consensus pour régler ces questions.
Merci à vous, Marie-Evelyne Petrus-Barry, d'être venue au micro de Mémoire d'un continent, émission consacrée à l'histoire de l'Afrique et des diasporas africaines, émission qui traite d'histoire, mais aussi qui regarde vers le futur. Ici se termine notre émission, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec...